réplique « Qu'est-ce que le wokisme ?» avec Anne Toulouse et François Cusset. Deux ans à peine après son apparition en France, le mot « woke » vient d'être accueilli dans les dictionnaires. J'ouvre l'édition 2022 du Petit Larousse et je lis « woke », adjectif d'origine afro-américaine, signifiant « en éveil », se dit d'un courant de pensée dénonçant toute forme d'injustice et de discrimination subie par les minorités ethniques, sexuelles ou religieuses. Ce terme est fréquemment employé par les tenants de l'universalisme républicain pour qualifier les excès relatifs au militantisme des défenseurs des minorités. Et voici la définition du petit Robert, qui est conscient et offensé des injustices et des discriminations subies par les minorités et se mobilise pour les défendre. Surtout péjoratif et par dénigrement, précise le dictionnaire. Aucun des deux dictionnaires ne dit que ce terme est rare. Il le consacre parce qu'il est passé dans l'usage. Avec Anne Toulouse, qui publie « Wokisme, la France sera-t-elle contaminée ?» et François Cusset, l'auteur entre autres de « French Theory », Foucault, Derrida, Deleuze et compagnie, et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, nous nous interrogerons sur les raisons de cette percée foudroyante. Faut-il y voir une panique morale devant les avancées de la pensée critique? Témoigne-t-elle de l'américanisation de la société française? Ou bien la French Theory, une fois solidement implantée outre-Atlantique, fait-elle ainsi retour dans son pays natal? Avant cela, je voudrais demander à mes deux invités s'ils ratifient les définitions que j'ai lues et s'ils veulent la compléter ou la corriger, Anne Toulouse.
Oui, alors je dirais que ça reflète à peu près la définition que je donne dans le petit lexique sur lequel commence mon livre, pour qu'on sache de quoi on parle. Mais on peut y ajouter quelque chose de beaucoup plus folklorique. D'abord, bon, il y a la partie sérieuse du woke qui recoupe le communautarisme, le développement parallèle de sociétés dont les unes apparaissent comme une majorité, les autres comme une minorité. Mais il y a aussi tout un côté, je dirais, communication et mode. Par exemple, on parle du couple de renégats de la cour d'Angleterre, de Harry et Meghan, comme les princes et la princesse du woke. On voit le woke dans des publicités. Ce matin, j'écoutais la radio et j'entends un exemple de woke, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pistes cyclables genrées. Alors je me dis, tiens, c'est bien, ça me prépare pour mon retour aux États-Unis parce que même là-bas, il n'y avait pas pensé. En fait, vous savez pas ce que c'est, une piste cyclable genrée, c'est une piste cyclable bien éclairée pour que les femmes s'y sentent en sécurité. Donc vous voyez que c'est un mot qui a dérivé partout et qu'on va retrouver partout. Et je suis désolée.
Mais ça, il ne s'agit pas d'un mot, il s'agit quand même d'un comportement, d'une pratique, d'une sensibilité. Parce que le mot « woke » n'est pas employé quand on annonce des pistes cyclables genrées, Anne Toulouse, mais en même temps, vous y reconnaissez effectivement la mentalité woke.
Pourquoi les femmes en vélo devraient être une espèce protégée plutôt que les hommes? Et c'est entré dans... Alors, ça a entraîné, évidemment, les mots ne sont pas innocents, ils entraînent des comportements, et à chaque étape de son comportement, ce qui arrive déjà aux États-Unis, on doit se demander, mais est-ce que je ne brime pas quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vraiment égalitaire? Et tout ça est arrivé en France, comme je vous le disais, comme toutes ces modes d'outre-Atlantique, puisque ça se fait dans le grand pays qui est l'Amérique. Alors on va peut-être dire aussi que c'est d'inspiration française. Et d'ailleurs moi-même, à un moment, j'évoque ça dans mon livre en disant c'est vrai qu'il y a un échange entre les intellectuels français et les intellectuels américains. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est plus un problème d'intellectuels. C'est maintenant passé complètement dans la rue.
François Cusset.
Le woke n'existe pas. C'est pas parce que quelque chose est dans le dictionnaire, d'ailleurs, qu'il existe. Il n'y a pas d'unité à ce concept. Vous avez remarqué qu'on emploie souvent le « isme », ce qui prouve ce que c'est principalement un fantasme de la droite réactionnaire qu'elle a mis sur le marché des fantasmes politiques, et qui d'ailleurs lui a valu certains succès électoraux. C'est un courant de mode dans les entreprises pour se refaire une virginité sociale ou de genre. Mais ça ne recoupe rien de cohérent et d'unitaire. Je pensais même, en venant ici, figurez-vous, n'a-t-on pas des choses plus sérieuses à discuter ? N'y a-t-il pas aujourd'hui des dangers beaucoup plus urgents et beaucoup plus graves que nous devrions, dont nous devrions débattre, qu'il s'agisse du post-humanisme digital de ce monde dans lequel la Silicon Valley nous a plongé, qu'il s'agisse du capitalisme incontrôlé, de l'apocalypse climatique ou du retour des guerres impériales, vous voyez ? Donc certains, comme il me semble vous, dans certaines de vos réactions, y voient une menace pour la civilisation et pour nos valeurs. Civilisation, je ne sais toujours pas ce que c'est.
C'est dommage.
Ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que la violence est en face. Je pense que c'est de ça qu'il faut discuter. C'est-à-dire que les minorités en question, dont effectivement on peut toujours raconter les excès rhétoriques, quelques anecdotes montées en épingle, on va en parler, évidemment, il y a des dérapages. Les minorités en question sont d'abord les cibles de la violence, qu'il s'agisse de féminicide, de racisme systémique, qu'il s'agisse de guerre, qu'il s'agisse des rapports Nord-Sud. Et finalement, leur imputer cette violence, c'est en fait faire le jeu de la droite ultra-réactionnaire qui a besoin d'imposer ces sujets. Et puis des médias. Les médias adorent, vous savez, les médias cherchent à attirer notre attention. Les médias et les algorithmes des réseaux sociaux.
Ben, j'ai bien fait de vous inviter, en tout cas, François Cusset, parce que votre position est frontale. Alors, j'ai sous les yeux un dictionnaire woke français établi, constitué par un journaliste de l'Obs, Pascal Richer, sans la moindre ironie, c'est-à-dire plutôt favorable à ce mouvement critique ou hypercritique. Et c'est très intéressant parce que cela prouve bien que le phénomène existe. Je cite quelques termes et vous me direz l'un et l'autre s'ils correspondent à votre vision des choses, et notamment vous, Anne Toulouse, puisqu'en effet, vous vivez à Arlington, en Virginie. C'est oui. Bien cela. Donc, vous êtes aux premières loges.
Bah, je serais peut-être mieux à San Francisco, parce qu'Arlington est peut-être un peu plus conservateur et un peu plus vieux. Enfin,
vous êtes aux États-Unis, en tout cas. Et vous savez ce qui se passe sur les campus. Alors d'abord, il y a le mot d'appropriation culturelle. Action consistant à s'approprier des éléments de culture de peuples dominés, noirs américains, africains, amérindiens, peuples colonisés. Et on dénonce assez souvent l'appropriation culturelle, et même en France est arrivé Ariane Mouchkine pour une pièce de théâtre qu'elle voulait présenter. Binarité, conception du monde en deux catégories de genres bien distincts, hommes-femmes. Cisgenre. Personne dont le genre correspond à sexe assigné à la naissance. Exemple, un homme qui pense qu'il est un homme, une femme qui pense qu'elle est une femme. C'est assez troublant. Écriture inclusive, élément graphique et syntaxique permettant une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Il y a féminicide aussi. Intersectionnalité, oui, démarche sociologique pour analyser les dominations croisées, sexistes, racistes de classe qui traversent la société. C'est une approche qui met l'accent sur le cumul de ces discriminations. Avant l'apparition du mot woke, on parlait volontiers pour décrire ce courant de militantisme intersectionnel. Hétéronormativité, tout ce qui dans la société consolide l'idée que l'hétérosexualité est normale, voire souhaitable. Il y a aussi LGBTQIA+, célèbre acronyme que je n'ai pas besoin de définir, masculinité toxique, là aussi la définition n'est pas forcément nécessaire, privilège, racisme systémique, etc. Donc quand même, on peut dire que notre vocabulaire et un certain nombre de nos pratiques ont été modifiés par un mouvement qu'à tort ou à raison, on appelle woke, c'est pas la peine forcément de rester fixé sur la terminologie, sauf que c'est intéressant parce que les woke s'opposent aux endormis. Mais François Cusset, on ne peut pas nier l'existence de ce phénomène, on ne peut pas dire simplement que ce sont quelques excès montés en épingle par des gens qui sont paniqués, et c'est quelque chose quand même d'une certaine ampleur, François Cusset.
Les mots que vous avez cités, là, les mots de ce glossaire sont essentiels, témoignent d'un renouvellement de la pensée critique, justement, de la minorité et des discriminations, sauf qu'ils viennent d'horizons très différents, que ce soit des créations universitaires, conceptuelles aux États-Unis, que ce soit des créations militantes, activistes sur le terrain, qu'il s'agisse de la question du racisme ou de la question de genre et de sexisme, qui sont pas les mêmes, qui tentent de converger, mais qui sont pas du tout les mêmes, ou de cette question de l'appropriation qui, elle, est moins définie et relève plus à mon avis, de débat sur les réseaux sociaux un peu plus rapide et superficiel. Ce que je veux dire, c'est que tout ça vient d'horizons différents. Donc oui, il y a une sensibilité nouvelle, une intelligence critique nouvelle liée à la génération, à la jeune génération, bien sûr. Hein, je crois que c'est ça dont il faut parler, c'est des rapports entre générations, qui a exigé ce renouvellement de vocabulaire. Tous les essais là, réactionnaires contre le woke moquent ces mots. Mais il faut pas moquer ces mots, il faut comprendre ce qu'ils disent et pourquoi est-ce qu'ils existent, puisqu'ils n'existaient pas de signifiant pour dire exactement ce qu'ils veulent dire. On aurait pu citer le mot décolonial, hein, qui est en train de remplacer le mot post-colonial, précisément parce que le mot post, ça veut pas dire grand-chose, c'est des modes universitaires, et que décolonial, c'est beaucoup plus précis, c'est-à-dire continuer le travail de décolonisation des imaginaires une fois que la décolonisation politique est avérée et terminée. Chaque mot a un sens, et ça témoigne plutôt pour moi d'une intelligence critique de la jeune génération que d'un courant idéologique cohérent. Et maléfique.
Anne Toulouse.
D'abord, ce glossaire que vous venez de passer en revue à travers, ça fait mon confrère Pascal Richer, avec qui j'ai travaillé aux États-Unis d'ailleurs, c'est celui qui figure dans mon livre, donc là, j'ai rien à ajouter, mais je voudrais revenir sur ce que dit François Cusset, et puis je vais vous surprendre parce que je vais être d'accord avec vous sur ce que vous avez dit dans votre intervention précédente, qui était que le woke distrait des questions essentielles. Et c'est d'ailleurs exactement ce que je dis, parce que je trouve que c'est un enfer peuplé de bonnes intentions, ça part de problèmes qui sont réels, comme le féminisme, comme l'égalité entre les races, comme le respect des différences sexuelles, mais avec une telle outrance que finalement, on perd l'essentiel dans l'accessoire. Par exemple, plutôt que renommer les écoles américaines, ce qui n'est pas quelque chose d'anecdotique, parce que ça a été un énorme courant qui s'est développé aux États-Unis au moment où les gens avaient le loisir de le faire, puisque les écoles ont été fermées pendant un an et demi, pendant le Covid aux États-Unis, sous la pression de groupes qui avaient intérêt à rester chez eux. Donc, on voyait les gosses lâchés dans la rue, certains étaient repris en main par leurs parents, d'autres ne pouvaient pas puisque les parents étaient au travail. Et donc, dans cette espèce de, presque de crime, comme la jeunesse américaine, qui se retrouvait complètement laissée à elle-même, que faisaient les conseils scolaires? C'était de voir si nommer une école Lincoln, Washington ou Jefferson était un crime contre ce qu'ils avaient fait à l'époque. Voilà. Donc, je trouve que là, c'est quand même un des péchés du wokisme, de voir toujours les choses par le petit bout de la lorgnette. Le deuxième péché, c'est une sorte d'intolérance. Quand vous parlez des traités qui défendent le wokisme, alors moi, c'est pas un traité que j'ai écrit, c'est un récit sur ce que je vois autour de moi, mais vous employez des mots comme intolérance, comme racisme, les conservateurs qui essaient de prendre une revanche. Attendez, on peut simplement penser que ce qui se passe n'est pas exactement le reflet de la réalité et que ça ne sert pas les personnes qui sont censées en être bénéficiaires. Mais c'est pas pour ça. De toute façon, on a le droit d'être conservateur de nos jours. Et puis, ce n'est pas pour ça qu'on se livre dans une attaque injuste contre l'autre côté. Moi, c'est ce qui me gêne dans la société américaine dans laquelle je vis. Et je vois très bien, parce que je vote aux États-Unis, le plus grand parti des États-Unis, c'est ceux qui sont comme moi, qui sont indépendants, qui ne veulent pas être dans ces deux extrêmes à outrance, où vous avez les uns qui sont censés avoir le monopole de la vertu, je parle des démocrates, et les autres qui sont censés avoir le monopole des valeurs nationales, et je parle des républicains, les uns et les autres, avec la plus parfaite mauvaise foi. C'est ça qui me gêne dans ce mouvement, c'est l'intolérance qu'il suscite.
François Cusset.
Alors, d'abord, intolérance, c'est moins grave que les crimes directs et la violence directe dont les minorités sont victimes. Ensuite, on ne va pas demander gentiment et poliment aux oppresseurs structurels depuis des millénaires de ces minorités de bien vouloir arrêter de les discriminer, hein, n'est-ce pas ? On est en guerre. C'est une guerre de mots, principalement rhétorique, hein, parce que c'est pas une guerre directe. Donc, de ce point de vue-là. Alors, ensuite, je n'ai pas du tout dit que le woke distrayait des questions essentielles. Ce que je dis, c'est que l'usage de cette sensibilité nouvelle par ses détracteurs de droite et d'extrême droite, c'est ça qui distrait effectivement des questions essentielles. Et du coup, le capitalisme, le cadre socio-économique dans lequel on vit, les inégalités, on ne peut pas en parler puisqu'on en reste à des histoires purement symboliques. Je dirais juste, Anne Toulouse, avant de m'arrêter, que le point de vue conservateur là-dessus est aveugle. Il y a beaucoup d'erreurs et de choses inadmissibles dans votre livre. J'en citerai une seule. Vous dites à un moment, vous parlez des quartiers et des ghettos noirs, question centrale aux États-Unis, et parlez de la tendance des Afro-Américains à se regrouper entre eux par méfiance héréditaire envers le reste de la population. Ça vous donne le niveau du livre. Je suis désolé de dire ça. Attendez, je vais dire ça. Ça me fait penser, pour détendre l'atmosphère, à la blague de Pierre Desproges, qui disait, toute proportion gardée, on ne m'ôtera pas de l'idée que les Juifs ont fait preuve d'une grande hostilité envers le Troisième Reich. Voilà, il faut être sérieux.
Quand même,
franchement.
Il faut être sérieux. C'est le la réduction est Hitlerum, là, déjà,
non,
tout de suite.
Non, ce que je dis, c'est qu'il faut être sérieux. Et qu'il existe des phénomènes sociaux, économiques, structurels de discrimination, de ségrégation urbaine, dans le cas des Noirs. Et que ce dont parlent les anti-woke, c'est en fait une réaction... de l'écume de cette réaction, de la question linguistique, rhétorique, symbolique, il y a beaucoup d'autres phénomènes à discuter.
Anne Toulouse.
Oui, alors je vous trouve vraiment violent et je trouve que la comparaison est insultante, mais je ne vais pas reprendre le même ton parce que ce n'est pas dans ma nature. Je vous dirais simplement que ce que je dis, ça naît d'une observation. Je vis aux États-Unis depuis très longtemps. J'ai même fait beaucoup d'immersion dans la société noire américaine puisque j'ai passé 2 ans à Atlanta pour cela. Et je vois que effectivement, par exemple, les Noirs américains qui ont de l'argent, et ça, je voyais ça à Atlanta, ils ne vont pas, beaucoup d'entre eux ne vont pas acheter, je sais pas, un appartement dans tel ou tel quartier de New York ou Washington. Ils vont se regrouper à Atlanta, qu'on appelle la Mecque noire, parce que ce sont tous les sportifs, les artistes, les intellectuels vont se regrouper dans cet endroit. Vous voyez des gens acheter dans les mêmes quartiers. Vous avez PG County à côté de chez moi, dans la banlieue de Washington. Vous voyez aussi Martin Luther King disait que les églises, le dimanche matin, était le moment le plus ségrégué aux États-Unis parce que chacun allait dans son église. Mais maintenant, personne n'interdit personne d'aller dans l'église de son choix. Simplement, vous voyez... que spontanément, il y a des églises qui sont communautaires. Et c'est pas seulement blanc-noir. La grande différence, c'est que l'on voit que ça tient d'une tradition afro-américaine qui ont tendance à reproduire des schémas qui étaient extrêmement négatifs, mais qui les ont reproduits parce que, par exemple, à Atlanta, du temps de la ségrégation, il y avait également un quartier noir qu'on appelait Sweet Auburn et qui était où est né Martin Luther King, d'ailleurs, qui était très sophistiqué, où se sont créés des tas d'entreprises qui maintenant sont fondues dans les entreprises nationales. Et cette tradition était plus ou moins maintenu. On voit bien, par exemple, que les immigrés africains n'entrent pas du tout dans cette logique, qui représente pour l'instant 10% de la communauté noire américaine. Alors, il y a un phénomène culturel, certes, c'est peut-être la faute des Blancs, mais enfin, moi, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Que parce que je suis une femme blanche d'origine européenne, d'origine française, j'ai une attitude criminelle, je suis en train de discriminer quand... Bah, c'est ce que vous avez dit.
Non, ce que je dis, c'est...
Je voudrais bien répéter votre phrase, parce que vous avez dit les crimes qui sont commis par la majorité blanche contre... les minorités, alors comme je fais partie de la majorité, ben c'est ce que vous avez dit ou non ?
Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction de l'histoire de 300 ans, de ségrégation et d'esclavage, de l'histoire spécifique du modèle multiculturel américain, de l'histoire de l'université aussi, et que tous ces éléments de contexte manquent, il me semble. Voilà, mais bon, c'est, on peut en discuter. Alors,
mais c'est très intéressant, François Cusset, parce que vous dites, nous sommes en guerre, et il me semble que c'est cette idée qui est à la racine du mouvement woke et de ce que Anne Toulouse appelle sa violence et son intolérance. S'il y a guerre, on porte des goûts. Et donc la vie intellectuelle, la vie universitaire n'est plus placée sous le paradigme du débat, de l'échange d'arguments, etc., mais d'un face-à-face entre les oppresseurs et les opprimés. Et de là naît, vous me direz si je me trompe, François Cusset, la cancel culture, qui fait partie de ce nouveau vocabulaire, culture de l'effacement ou de l'annulation. Et là, j'ai un exemple très intéressant, parce que je le tire du livre d'Alexandre Geffen, « La littérature est une affaire politique ». Et il interviewe Alexandre Geffen Aurélien Bélanger. Celui-ci dit « Je me fantasme à heures perdues en Hugo ou en Sartre, venu de la droite. Je sais depuis de 20 ans que la ligne générale de ma vie, inspirée de ses glorieux modèles, pardon, tendra vers un gauchissement, une radicalisation progressive. » Et qu'est-ce que ça donne, ce gauchissement? L'analyse de l'évolution de Michel Houellebecq. Il est devenu une icône réactionnaire, terme que vous affectionnez, François Cusset. Quand on l'a découvert avec les particules élémentaires, et malgré leur critique de mai 68, il apparaissait comme un romancier moderniste. Un romancier qui contenait certes la modernité au domaine de la technique, mais qui fantasmait encore l'émancipation de l'humanité. Il n'est plus aujourd'hui qu'un écrivain fantôme qui écrit dans Valeurs actuelles et qui tourne pour personne autour du périphérique qu'il est lui-même devenu, un maniérisme de lui-même. Et évidemment, il a écrit « Soumission ». Et il est clair que ce livre, un certain nombre de gens ne lui ont pas pardonné. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'existe plus. Il écrit pour lui-même, voilà. Quand bien même il écrirait, il est effacé. Et il serait donc légitime, aujourd'hui, s'il venait à parler dans une université, qu'on l'empêche de le faire, parce que c'est un écrivain réactionnaire, voire raciste. On assiste quand même à une extension très inquiétante du domaine du racisme aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que, à partir du moment où vous parlez de guerre, tous les coups sont permis.
Il y a des gens, comme moi, et on est nombreux, qui pensent qu'effectivement, il existe encore la licence poétique, la créativité de la fiction romanesque, et que les prises de position biographiques d'un écrivain, voilà, ne peuvent pas épuiser son œuvre. D'ailleurs, moi,
mais c'est son roman qui est mis.
Voilà, mais non, mais moi, je pense que Soumission n'est absolument pas un roman islamophobe. Donc ça, c'est une autre lecture. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est que la cancel culture qui vous inquiète tous. Mais elle est en face, là aussi. Elle est en face. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, les ligues chrétiennes d'extrême droite font interdire dans des centaines de bibliothèques Toni Morrison, Martin Luther King, Art Spiegelman, Mouse de Art Spiegelman, d'accord? Donc, après, le cancel, si vous voulez, c'est aussi les choix de l'agenda médiatique, c'est aussi le marché, hein, qui préfère ce qui vend que ce qui vend pas. Donc, oui, bien sûr. Et quant au McCarthy, je suis désolé, le laboratoire de Jean-Michel Blanquer pour surveiller les universités soi-disant islamo-gauchistes, Turning Point USA aux États-Unis pour surveiller effectivement et mettre sur écoute, le maccartisme est quand même plutôt en face. Donc la question est là. Maintenant, je voudrais aborder le truc essentiel de la guerre. Je pense que si je parle de guerre, j'ai bien dit que les vraies guerres étaient ailleurs, hein, que c'est une guerre quand même de mots, c'est parce qu'il me semble, et là c'est l'essentiel, qu'il y a un mouvement historique de long terme après la séquence d'émancipation des années 60-70, enfin des années 50 à 70, décolonisation, protestation de la jeunesse, n'est-ce pas? Bon, on a eu un retour de bâton. Et on est dans ce retour de bâton, qui est d'ailleurs venu de l'émancipation elle-même. C'est très simple à comprendre, c'est-à-dire que, en fait, la libération sexuelle, ça peut aussi donner carte blanche à ceux qui, font des viols en fin de soirée. C'est-à-dire, en fait, il y a, le verre est dans le fruit, il y a eu, dialectiquement, à l'intérieur du mouvement, des accomplissements qui n'ont pas eu lieu, et puis les ennemis de ces formes d'émancipation se sont déchaînés pour les limiter, voire pour les inverser. C'est ça qu'ont en tête les jeunes, voilà, la jeune génération, qu'ils soient militants ou pas du tout militants, c'est la vigilance à ne pas perdre ses conquêtes, voire même à continuer le travail d'émancipation qui s'est arrêté ou inversé, et c'est pour ça qu'ils se sentent en guerre. Donc l'affaire a beau être principalement en rhétorique et sur des programmes d'université et sur des unes de magazines, elle est sérieuse et c'est un vrai conflit, oui.
Anne Toulouse.
Oui, alors moi, ce débat m'est un peu étranger parce que je n'ai pas écrit d'abord un livre polémique, je n'ai pas écrit un livre politique, j'ai simplement écrit ce que je voyais autour de moi et en me demandant entre mes deux pays dans quel sens ça allait aller. Mais là, je vais parler comme je parle toujours et comme je l'ai fait lors de mes livres précédents, par exemple « Bienvenue en Trumpie » sur la politique américaine, je parle toujours au nom de la majorité silencieuse. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, entre les extrêmes, il y a un grand pays, un pays d'ailleurs, je dirais, qui est au milieu, même géographiquement, parce qu'on est toujours fixé. Je sais que vous avez enseigné à Berkeley, vous avez enseigné à Columbia. Moi, je connais assez peu les campus américains, sauf en tant que mère d'étudiant, en payant le tuition, c'est pas la meilleure souvenir que j'en ai. Bref, je pense qu'il y a au milieu des gens qui ont du bon sens, qui connaissent les excès dans les deux sens et qui en souffrent. Ça représente à peu près 40% du pays et qui n'entrent pas dans ce débat. Et je pense qu'il faudrait arrêter parce que tout ce qui est excessif, finalement, tue le cœur du sujet qu'on aborde. Et il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui voudraient qu'on en revienne à du bon sens, y compris les minorités. Il faut arrêter de dire que tous les blancs sont des oppresseurs et que tous les noirs sont des victimes. Imaginez des gosses auxquels on apprend à l'école, vous êtes blanc, vous êtes dans le camp des oppresseurs, vous êtes noir, vous êtes dans le camp des victimes, et je ne parle même pas des autres minorités, parce que les Asiatiques sont dans une situation encore plus inconfortable, parce que on les appelle la nouvelle suprématie blanche. Et puis, vous avez au milieu de ça les Hispaniques qui, eux, arrivent et veulent simplement devenir le plus vite possible américains, trouver un boulot et faire avancer leurs enfants dans l'échelle sociale. Ce sont ça les vrais problèmes. Et donc, vous avez cette espèce d'esprit divisif et qui s'exerce dans l'endroit où il ne devrait pas l'être, c'est l'école. Parce que l'école, c'est sacré. L'école, c'est les enfants. On le voit bien quand il y a des écoles, des attaques contre les écoles américaines, tout le monde est en deuil. Et là, au lieu de leur apprendre à s'intégrer, comme on est censé le faire en France, on leur apprend d'emblée à se diviser. Vous, vous êtes les victimes de tel autre et tel autre. On les emmène en bus d'un quartier à l'autre. Enfin, ça se fait plus beaucoup. Mais on l'a fait à un moment en les dépaysant complètement et en les mettant, comme je dirais, otages de la vindicte populaire. Donc, moi, je trouve que c'est pas normal, tout ça.
Mais je pense qu'il y a en effet un problème avec l'école et même l'université. Il me semble, et d'ailleurs, vous le dites dans French Theory, François Cuisset, vous écrivez à un moment donné que les nouveaux radicaux ont eu raison de suspecter les classiques. Il suffisait de scinder le seul mot de chef-d'œuvre pour dévoiler sa dimension impérialiste, le masterpiece des grands génies devenant le masterpiece, le morceau du maître, son arme, sa ressource. Et je trouve que c'est très intéressant et très inquiétant. Car le fondement de l'humanisme, avec la Renaissance, c'est l'idée que les textes anciens ont quelque chose à nous dire. Et maintenant, il s'agit, avec le mouvement qu'on appelle à tort ou à raison woke, de donner congé à un passé devenu obscur au nom d'un présent qui est sensible, lui, à toutes les injustices, à toutes les discriminations, et qui donc traite le passé avec mépris et avec suspicion. Il le convoque devant son tribunal. C'est une mutation considérable. Alors là, pour le coup, c'est un choix de civilisation. Au lieu de traiter le passé comme une ressource, on veut donner congé à un passé supposé obscur, obscurantiste, sexiste et raciste. Le passé occidental. Il me semble assez légitime de s'inquiéter de ce phénomène, et ce n'est pas être conservateur que de le faire. C'est accepter d'entretenir avec le passé, non pas un rapport méprisant, mais un rapport de modestie et d'humilité. Donc je dirais que c'est une réaction non pas conservatrice, mais humaniste au sens fort du terme.
Histoire de mettre les pieds dans le plat, Alain Finkielkraut, je citerai volontiers la grande intellectuelle américaine Susan Sontag, qui a peut-être prononcé la phrase la plus violemment woke de tous les temps, sauf que quand elle l'a prononcée, il n'y avait pas du tout de mot woke. Au retour du Vietnam, où elle est allée juste après la fin de la guerre, elle a dit « Je veux bien sauver le parlementarisme, le féminisme, Newton, les opéras et Marcel Proust, mais il n'en reste pas moins que la race blanche et le cancer de l'histoire humaine. » Parce que je la cite.
C'est pas très malin.
Je la cite exprès pour vous dire que ce genre de formulation, finalement, n'ont pas cours dans les salles de classe des universités. Donc oui, il y a des débats. Ce dont vous parlez, Alain Finkielkraut, c'est en fait la question du canon. C'est-à-dire, quelles sont les œuvres canoniques qu'il faut enseigner aux étudiants de licence. Tout ça part d'une querelle qui a eu lieu en 1990-91. Hein, c'est l'origine, je pense, de la controverse woke, c'est il y a longtemps maintenant, où à Stanford, aux États-Unis, des étudiants ont refusé que dans cette reading list, il n'y ait que des œuvres occidentales et des œuvres d'auteurs hommes.
Attention. Et blancs.
Oui, mais attention, ils n'ont pas demandé à ce qu'on les censure, les élimine et à ce que le passé passe au tribunal. Ils ont demandé à ce qu'on complète, enrichisse, diversifie ce canon pour qu'il soit véritablement universel. Alors après, oui, il y a toujours de la surenchère. Il y a ceux qui disaient au contraire, il faut plus jamais enseigner Shakespeare ou Homère parce que c'est des méchants. Donc il y a toujours de l'exagération. Mais si vous regardez le débat qui a eu lieu à ce moment-là et que d'ailleurs l'extrême droite américaine à cette époque-là a utilisé en disant regardez, voilà l'ennemi. On était dans les années 90, il y avait une guerre en Yougoslavie, en Algérie. Vous voyez, c'est pareil, il y avait des choses beaucoup plus urgentes que de dire voilà l'ennemi. Alors que le débat était pour moi un vrai débat. Parce que dire il y a des institutions qui, à travers l'histoire, élisent des œuvres comme les seules susceptibles de nous transmettre le savoir et la sagesse et d'être enseignées aux jeunes, oui, la critique de ces institutions et de leur travail historique est à faire. C'est une très bonne idée. Pierre Bourdieu l'aurait fait volontiers. Il n'était pas woke.
Ah bah c'est sûr. Qu'en pensez-vous, Anne Toulouse?
Je pense que d'abord, le rapport à l'histoire est très différent en France, et, je dirais même en Europe et aux États-Unis, parce que l'histoire des États-Unis est très courte. Enfin, elle est longue si on entre dans les peuples qui sont arrivés avant les premiers Européens. Mais les Américains connaissent très mal leur histoire pour la bonne raison que beaucoup ne l'ont pas vécu. Vous avez aujourd'hui un quart de la population américaines qui sont comme moi, qui sont des immigrants de la première ou de la deuxième génération. Donc, au moment de la ségrégation, au moment du péché originel des États-Unis qui était l'esclavage, évidemment, ils n'étaient pas présents. Donc, on leur demande d'être comptables de choses dont ils sont totalement innocents et on préjuge qu'ils vont se comporter en fonction de ces critères. D'autre part, il y a quand même une attaque au symbole physique de ce passé que l'on ne veut pas intégrer parce qu'on mesure tout à l'aune de ce qui se passerait aujourd'hui. Mais quand on descend des vitraux de la cathédrale de Washington parce qu'il montre un épisode de la guerre de sécession, alors attendez, qu'est-ce qu'on va faire? On va raser le Colisée parce qu'il y avait des combats de gladiateurs et que les lions y mangeaient des chrétiens. Ça n'a pas de sens. Il faut assumer son histoire. Il faut savoir que ce qu'on a fait, oui, c'est vrai, par exemple, Shakespeare, ce sont des histoires lamentables de viol, de féminicide, des choses comme ça. Mais on ne replace jamais les choses dans leur contexte. Et si on prive les gens de leur histoire, on les prive d'une partie, je ne sais pas, de leur personnalité.
Alors, priver les gens de leur histoire ou raconter l'histoire autrement, je vous demanderai l'un à l'autre ce que vous pensez du projet 1619 qui a été mis en œuvre par le New York Times. Alors, certains diraient que c'est un journal woke, mais c'est des ultra-conservateurs.
Et, 1619, c'est ceux qui lisent le Wall Street Journal, quelle horreur.
Voilà, donc 1619, c'est la vraie date de naissance des États-Unis et non pas 1776 parce que c'est en 1619 qu'ont débarqué les premiers esclaves. Alors, que pensez-vous de cette initiative? Va-t-elle ou non dans le bon sens, François Cusset?
Là aussi, il faut pas imaginer que 1619 va remplacer 1776. Il faut imaginer que de même qu'il y a un mois de février aux États-Unis qui est le National Black History Month, hein, où à la télévision et partout dans les journaux, on raconte... on essaie de réveiller aussi cette mémoire de la discrimination. Et ben de la même façon, la question de l'esclavage doit être replacée effectivement au cœur de la genèse des colonies américaines pour comprendre finalement d'où c'est né historiquement et pourquoi est-ce que ce pays, après avoir promis avec sa déclaration d'indépendance l'égalité pour tous, a mis non pas un siècle, un peu plus, puisqu'il y a eu abolition de l'esclavage puis un 100 ans de ségrégation, pour mettre fin politiquement à cette affaire-là. Et si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas mis fin culturellement dans les imaginaires et les comportements. Donc pourquoi pas? Après, la réparation symbolique ne suffit pas et tout focaliser là-dessus, effectivement, c'est risqué d'imaginer qu'il ne s'agit que de passer le passé au tribunal, ce qui, à mon avis, est tout à fait insuffisant.
Alors, comme il faut mettre une petite note légère dans le débat, d'abord, 1619, ça veut rien dire. Ils n'ont pas pris la vraie date, parce qu'en fait, on ne sait pas quand est arrivé le premier navire d'esclaves. En fait, j'ai fait des recherches, j'ai un chapitre là-dessus sur les différentes, la petite histoire des différentes minorités. Et ce serait au siècle précédent des Espagnols qui auraient amené des esclaves. Mais à l'époque, vous savez, c'était hélas une pratique qui était répandue partout. Et à chaque fois qu'un navire abordait sur les côtes américaines, il y avait des esclaves à bord. Donc là, on part déjà, ce qui a créé, parce que les Américains aiment tellement la polémique, qu'évidemment, ça a été la première polémique. Effectivement, est-ce que l'histoire doit intégrer toutes les phases? Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas remonter aussi à l'histoire des Amérindiens, qui étaient quand même les premiers occupants? C'est vrai qu'il y en a assez peu de traces, on ne sait même pas combien ils étaient. Mais je pense qu'au lieu de prendre cette histoire par le côté positif, parce que ce qu'on n'entend jamais, ce sont quand même les progrès accomplis. Quand j'entends dire que nous sommes dans une guerre, je me permets de ne pas être d'accord parce que je suis dans un pays où je ne me sens pas en guerre contre les Noirs, les Asiatiques ou les Hispaniques que je fréquente. Moi, je vous dirais moi-même que ça me gêne à chaque fois que je remplis des papiers, que ce soit des papiers d'identité, des papiers pour, pour faire telle ou telle démarche, d'avoir à cocher toutes les cases, alors ce que je suis comme origine. Et alors je dis à un moment, j'avais rempli bon blanche et puis mon écran se bloquait parce qu'il fallait aussi que je donne mon ethnicité, que j'étais pas hispanique. Puis quand c'est pour le genre, alors maintenant ça n'en finit plus, parce qu'on est parti, comme on le disait tout à l'heure, de la distinction homme-femme. Mais excusez-moi, quand même, la distinction homme-femme, elle existe. Hein. Aux États-Unis, maintenant, on n'a plus le droit de dire femme enceinte. Sur les documents du CDC, On ne dit plus femme enceinte, on dit personne enceinte. Alors moi, je veux bien qu'on me montre par quel miracle de la biologie progressiste les femmes ne sont plus les seules à être enceintes. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai un geste très américain. Vous savez, on appelle ça palm face. Je mets la main sur la figure et je me demande dans quel monde on est tombé.
Juste une chose. Je voudrais rassurer Anne Toulouse. Vous n'êtes pas effectivement en guerre, quoique...
Ah bah si, à vous entendre, non, j'avais cru le comprendre. Mais enfin, vous me rassurez.
Publier un livre, effectivement, c'est aussi ajouter de l'huile sur le feu, bien sûr. Mais et ceux qui sont en guerre, c'est plutôt les minorités contre les mécanismes structurels qui les gardent en minorité. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est qu'effectivement, sur ce 1619, que ce soit 1500 quelque chose ou 1619, ce qu'il faudrait faire, et que ces mémoires officielles, institutionnelles des États-Unis ne font pas, c'est rapporter l'esclavage à la création et à la fondation du capitalisme européen moderne. C'est-à-dire que l'esclavage n'est pas seulement une affaire culturelle de discrimination d'une minorité, l'esclavage n'est pas une exception au capitalisme, elle est ce qui a rendu possible l'accumulation primitive de profits. Le commerce triangulaire a rendu possible le capitalisme d'Europe du Nord. Donc ça, c'est intersectionnel. C'est-à-dire, c'est dire, oui, mais n'en restons pas à la question des rapports ratio, si vous voulez, du racisme, comprenons le rôle qu'il peut jouer, et là on peut peut-être en venir aux entreprises qui profitent de tout ça pour laver leur image aussi, c'est-à-dire que tout ça est à replacer dans le cadre plus large de l'histoire du capitalisme et de ses blocages ou de ses crises actuelles.
L'histoire du capitalisme, il faut dire aussi que l'un des arguments des colons, qui n'était pas purement mensonger, c'était de mettre fin à l'esclavage en Afrique. Alors donc le capitalisme s'est peut-être construit aussi avec le colonialisme, et puis il y a eu l'abolition de l'esclavage qui doit aussi compter. Mais là, je voudrais vous poser une autre question à vous deux. Le projet 1619, nous le voyons, nous voyons l'importance donnée au concept d'intersectionnalité, un cumul de discrimination, une femme, lesbienne et noire, peut-être, pour ces trois raisons, aujourd'hui, victime de l'injustice. Mais cela suppose que le racisme, la discrimination, la violence n'a qu'une seule adresse, l'homme blanc. Pensez-vous que le racisme anti-blanc est un leurre, un mensonge, un fantasme fabriqué par les réactionnaires, ou reconnaissez-vous l'un et l'autre son existence, François Cusset?
C'est absolument un fantasme, c'est même une énormité. Vous savez que l'extrême droite américaine, l'alt-right, parle de génocide des Blancs qui seraient en préparation.
Je ne parlais pas de ça. Hein.
Voilà. Ben, en tout cas, ça, c'est de cet ordre-là. Qu'il y ait exagération même dans la réflexion ou rhétorique et qu'on assigne la faute historique et systémique dont on est en train de parler à tel ou tel Blanc qui est en face autour d'une table, oui, ça c'est une bêtise plus que du racisme. C'est-à-dire que la question n'est pas là, la question est précisément systémique et structurelle. Donc il faut absolument pas en rester là, il faut au contraire faire l'histoire, qui est une histoire des institutions, une histoire des intérêts et des groupes d'intérêts, et pas, absolument pas diviser la société. Par contre, les termes d'intégration, de réconciliation, de république unie, effectivement, dont on se prévaut pour empêcher ces conflits, seront pas les voies de la réconciliation. Les voies de la réconciliation passent par une certaine séparation des histoires et des récits historiques pour reconnaître les histoires qui ont été effacées, par la reconnaissance des discriminations et des institutions qui les permettent, oui.
Anne Toulouse.
Moi, je ne reconnais pas la réunion nationale à travers la discrimination. Vous savez, ce qui me gêne dans la théorie critique de la race, c'est ce credo, on ne peut combattre les discriminations présentes que par les discriminations passées que par les discriminations présentes, et les discriminations présentes que par les discriminations futures. Ça veut dire que nous sommes engagés dans une longue vie de discrimination. Alors, j'en reviens toujours à ma vision, peut-être un peu tunnelaire, de ces États-Unis centristes, que je vois quand même se réunir autour de certaines des grandes valeurs de la nation et que tout le monde embrasse, qui est de vouloir d'être à la poursuite du bonheur, comme le dit notre Constitution, de vouloir que ses enfants aient une meilleure vie que celle qu'on leur a donnée. Enfin, toutes ces aspirations communes ont l'air de passer par des théories où chacun est déterminé par un passé qui certes était fâcheux, mais qui était le passé. Et à partir du moment où le passé s'oppose à l'avenir, c'est un gros cliché ce que je dis, mais en fait, je crois que c'est pas bon pour l'ensemble de la population.
Et là, je voudrais vous livrer une anecdote. L'un et l'autre, que j'ai lu dans un article d'André Perrin, et il figure au sommaire de la revue Commentaire, revue réactionnaire et conservatrice. Mais l'anecdote méritent d'être cités. Le 1er octobre 2021, près de la place des Terreaux, dans le centre de Lyon, deux couples d'amis rentrent d'une soirée. Les deux hommes marchent devant, les deux femmes derrière. L'une des jeunes femmes est abordée par deux individus qui lui adressent des propositions relevant de ce qu'on appelle la drague lourde. Elle décline leurs invites et, devant leur insistance, leur rappelle que le harcèlement de rue est interdit par la loi. Ce qui lui vaut d'être traité de sale pute. Son petit ami Florian s'interpose alors. Quelques coups sont échangés et les quatre amis s'éloignent, suivis par les agresseurs dont un lance nique bien sa mère à ce fils de pute de blanc. De nouveaux agresseurs sont ainsi rameutés et c'est un groupe de 8 individus qui se livrent à un tapassage en règle du jeune homme au cri de sale blanc. Cette anecdote n'est pas exceptionnelle. Et la question que je vous pose, François Cuisset, pourquoi n'est-il pas légitime, là, de parler de racisme anti-blanc? Pensez-vous que c'est simplement une réponse, certes malencontreuse, au racisme systémique que vivent ces jeunes? Et vous qui citiez Pierre Desproges, vous oubliez, semble-t-il, qu'il a dit un jour qu'il n'adhérait à SOS racisme que quand on mettrait un pluriel à racisme. Pourquoi penser que l'Occident et le mâle blanc est coupable de tous les maux?
D'abord, j'insiste pour qu'on fasse très attention à l'usage des anecdotes, vraies ou fausses, celle-là est sûrement vraie, mais attention, hein, parce que dans les bouquins contre le woke, il y a énormément de fake, c'est-à-dire d'histoires, des légendes urbaines qu'on raconte et qu'on fait circuler, qui s'avèrent en fait fausses ou avoir été inventées. Non, mais en tout cas, cela est sûrement vrai. Mais attention au florilège, parce que finalement, quand on jette le bébé de l'émancipation avec l'eau du bain de ce genre d'anecdotes, c'est aussi parce qu'on ne fait que lister et aligner des anecdotes. Si on rentre dans cette histoire, c'est de la fiction puisqu'on ne la connaît pas, on ne l'a pas vécu, moi je dirais spontanément que ces agresseurs, qui sont agresseurs ni parce qu'ils sont noirs, ni parce qu'ils détestent les blancs, mais parce qu'ils sont agresseurs, parce qu'ils, je sais pas, donc elle est...
Il dit sale blanc quand même, et s'il avait dit sale noir, il serait raciste.
Non, ce que je dis c'est qu'ils utilisent cette histoire de racisme, ou de ce que vous appelez le racisme anti-blanc, c'est-à-dire ce contre-racisme, pour servir leur intérêt du moment, qui est d'être, pardonnez-moi, des petits cons qui agressent, qui insultent des femmes, et effectivement on est dans un système où la loi interdit aux blancs comme aux noirs, à tout le monde, de faire ce genre de choses. Donc ce que je dis, c'est que dans cette anecdote, ce qui compte, c'est que des gens enfreignent la loi. Ce qu'ils disent pour le faire et pour éventuellement détourner l'attention vers cette question-là, pour que justement la police n'aille pas les chercher. Vous voyez, il faut pas que nous tombions dans le piège d'imaginer qu'il y a une sorte de contre-racisme qui se voit dans ce genre d'anecdote. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui enfreignent la loi et qu'il faut, punir ou en tout cas empêcher de le faire.
Il y a quand même un phénomène, que les Anglais appellent le white flight, décrit par Christophe Guillouis, c'est-à-dire ceux qui habitaient en banlieue, c'est-à-dire les Français d'origine française et européenne, quittent la banlieue pour le périphérique parce qu'ils ne se sentent pas bienvenus, parce qu'ils perdent la guerre des yeux, etc. Donc, c'est un phénomène social et pas simplement une anecdote.
Donc, la ségrégation urbaine, si vous voulez, quand vous vous retrouvez dans des quartiers, c'est plus le cas aux États-Unis qu'en France, mais il commence à y avoir ça en France, où il y a 70 à 80% de la population qui est effectivement de la même origine, là, ça devient très compliqué, effectivement, pour ceux qui ne le sont pas. Mais cela se comprend dans tous les sens. Cela se comprend dans l'autre sens également. Mais j'insiste sur un point, Alain Finkielkraut. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'exemple emblématique de la lesbienne noire. En fait, il faut comprendre que ces questions d'identité sont toujours multiples. Et il faut faire confiance à cette jeune génération pour démultiplier sans fin la question identitaire. Donc la peur qu'on tomberait dans le communautarisme et dans les politiques identitaires, non, parce que l'identité n'est jamais au singulier. Elle est toujours plurielle, et tout le problème est de la construire, de la déconstruire et de la combiner. Parce que la lesbienne noire, pensez bien qu'elle est discriminée par sa propre communauté, qui n'aime pas les homosexuels, par les hommes de sa communauté, qui voilà la discrimine en tant que femme, etc. Donc ces questions-là sont plus complexes qu'une identité au singulier contre une autre.
Est-ce que ce que j'ose appeler le racisme anti-blanc existe aussi aux États-Unis? Est-ce que c'est un phénomène dont on parle? Est-ce que c'est un phénomène qui inquiète? Est-ce que certains radicaux extrémistes de Black Lives Matter s'expriment en ces termes? Anne Toulouse.
On n'en parle pas en bonne compagnie parce que aux États-Unis, on se censure beaucoup quand on est entre gens, je dirais d'ailleurs, qui ne sont pas attirés vers les extrêmes, parce qu'il faut bien dire que tout le monde maintenant a un peu peur qu'on enregistre vos propos sur un téléphone portable et qu'ils soient déformés, parce que on a tendance. C'est vrai que quand on essaie d'avoir une position plutôt modérée, quand on n'est pas pour, on devient contre et ça peut nuire. Je connais beaucoup d'exemples de carrières qui ont souffert d'avoir tenu des propos un peu libres et qui n'étaient pas racistes ou non. On sait que le racisme existe. existe. Il faudrait être complètement naïf pour penser qu'il n'existe pas et qu'il n'existe dans aucune communauté. Mais c'est vrai que quelque part, il y a une anecdote. Alors, je sais que vous n'aimez pas les anecdotes, mais celle-là m'avait beaucoup frappée parce que c'était dans le Washington Post il y a quelques années, et le Washington Post publiait tous les samedis les mots d'enfants. Alors, les parents étaient très fiers pour d'envoyer des choses qu'ils trouvaient géniales que leur enfant avait dit. Et là, un monsieur noir écrit, je me promenais, je rencontre un collègue blanc et on commence à parler, à discuter, à rire ensemble. Et là, sa petite fille lui dit, mais comment se fait-il que tu sois gentil avec un blanc? Et alors, c'est pas qu'elle ait dit ça qui m'est choquée, mais ce qui m'a choqué, c'est que le Washington Post publie ça comme si c'était un charmant mot d'enfant. Moi, je trouvais ça, j'en reviens toujours aux enfants, parce que je trouve que c'est par là que passera l'unité de la société américaine, et qu'il ne faut pas commencer à les diviser dès leur plus jeune âge, et qu'il ne faut pas leur bourrer le crâne avec des théories que la plupart peuvent comprendre s'ils arrivent jusqu'à l'université et qu'ils entrent dans le cénacle dont vous venez de parler. Mais je pense que le gamin de 8 ans, spontanément, si vous le mettez dans des classes qui sont, comme on dit maintenant, inclusive, où il a des petits camarades. Enfin, écoutez, moi, j'ai vu ça, hein, par exemple, dans les lycées français, où il n'y a pas cet esprit, et où mon fils a fait ses études, et où la question ne se posait même pas. Donc, je trouve que de perpétuer cette idée de stéréotype, moi je le dis toujours à mon fils, hein, je lui dis qu'il a la mauvaise pioche, puisqu'effectivement, il est blanc et je ne vais pas entrer dans sa vie privée, mais il coche toutes les cases. Mais ce n'est pas pour autant un prédateur. Enfin, on ne peut pas caricaturer la société comme ça.
Oui, François Cusset.
Encore une fois, l'utilisation stratégique de sa condition dans une situation où elle n'est pas en jeu, hein, que ce soit un agresseur de couleur qui utilise la question du racisme pour justifier ce qu'il est en train de faire, ou ça peut être pour une agression sexuelle, dessert totalement la cause de la défense des minorités et est à condamner même pénalement. Mais c'est comme dans tous les domaines. Ces cas extrêmes ne résument pas et ne représentent en rien le phénomène que vous appelez woke. Moi, il me semble qu'au contraire, le phénomène woke nous amène vers plus de civilité. Parce que je vais vous dire, un monde dans lequel on ne fait plus ce qu'on faisait quand moi j'avais l'âge des jeunes, quand on est dans les années 80-90, c'est-à-dire quand, pour faire rigoler ses copains, on imitait l'accent africain ou la démarche d'un nain, n'est-ce pas? Quand on risquait effectivement le harcèlement sexuel en fin de soirée, quand on effaçait des pans entiers de l'histoire de France telle qu'on l'étudiait à l'école, etc. Ce monde est tout simplement un monde un peu moins con. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a aussi un progrès de civilité. Et si on insiste que sur les réactions et utilisations extrêmes de cette condition minoritaire, alors on ne voit pas du tout l'essentiel qui est cette évolution-là.
Un progrès de la civilité. Dans votre dernier livre, François Cusset, qui est un roman, publié aux éditions PEL, Final Fantasy, un roman très intéressant. Ce sont quatre personnes très âgées qui décident de vivre en colocation pour affronter ensemble la grande vieillesse. Et le narrateur lui-même dit à un moment donné, j'en ai marre de ces histoires de harcèlement au bureau, de racisme post-colonial, d'oppression des femmes à l'heure des sites de rencontres optimisées. Je me laisse aller depuis peu, par jeu, parfois, plus souvent sincèrement, tristement, à emmarteler l'ineptie, en moquer le ridicule, comparé à mon siècle. À moi, mon siècle de révolution, de génocide et de isme enflammé. Donc là, tout d'un coup, il y a une certaine ironie qui affleure dans votre livre vis-à-vis de ce wokisme dont vous venez de parler. Donc, cette ironie est-elle simplement... C'est votre personnage ou c'est un peu vous, François Cusset?
C'est une question de génération. C'est-à-dire qu'en fait, là-dessus, moi, en fait, mon point de vue, il est pragmatique, il n'est pas idéologique. C'est-à-dire que, oui, pour les gens du XXe siècle, ceux dont l'essentiel de la vie a eu lieu au XXe siècle, ces questions sont soit nouvelles, soit ont toujours été considérées comme secondaires par rapport justement à un ordre qui était plutôt socio-économique ou politique ou autre chose. Lui, ce qu'il dit, c'est le nouveau monde, celui qui va me survivre, je l'emmerde, puisqu'il va me survivre, précisément. Pour autant, ça renvoie à quelque chose de très sérieux, qui est le fait que on le veuille ou non, les jeunes générations, et je veux dire, moi, je les côtoie, j'enseigne, etc., se subjectivent. C'est-à-dire que la subjectivation, c'est comment on devient soi-même, comment on existe dans un contexte social, par ces questions dont nous parlons. On peut le regretter, on peut s'en réjouir, mais leur subjectivation passe pas par la nation, par le fait d'être européen, par le mouvement social, passe d'abord par ces choses-là. encore une fois, peut-être à cause de la mauvaise influence des réseaux sociaux, mais par ces choses qui ne sont pas les choses du XXe siècle, qui ne sont pas les choses des générations plus âgées. Il est donc essentiel par pragmatisme d'en tenir compte, sinon on se coupe radicalement de cette jeunesse et de son avenir. Ce serait dommage.
Oui, peut-être aussi faut-elle l'arracher à un certain nombre d'obsessions identitaires, mais...
Alors, ce qui m'amuse, c'est que vous avez écrit ce livre en n'étant pas dans cette tranche d'âge. Hein. Vous êtes dans la cinquantaine, donc là, vous parlez de gens qui pourraient être vos parents. Et vous projetez leurs sentiments comme si c'était un autre monde, comme si, en vieillissant, on devenait quelqu'un de différent de ce qu'on a été plus tôt. Alors ça aussi, c'est une du découpage de la société, c'est l'ageisme. J'en parle d'ailleurs parce que les États-Unis, ils ont fait ça très bien, parce qu'ils découpent vraiment par tranches. Il y a les milléniums, il y a les générations alpha. Il y a la grande génération, il y a les baby-boomers, enfin, qui sont chargés de tous les péchés. Alors, là aussi, moi, ça me gêne un peu, parce que je pense aussi, je n'enseigne pas, mais je suis en contact avec des jeunes, pour la bonne raison que j'ai des enfants et des petits-enfants, donc j'ai trois générations sur les bras. Mais ça me semble, je pense pas qu'il faille opposer une génération éclairée parce qu'elle est tournée vers l'avenir à une génération qui effectivement et malheureusement a vécu l'essentiel de sa vie, mais en apporte peut-être quelque chose de riche parce que l'expérience, contrairement à ce que vous avez l'air de dire, n'est pas toujours négative.
Dans mon livre, en fait, il s'agit d'une projection dans 20 ou 30 ans. Donc, c'est plutôt ma génération devenue très âgée. Et bah, ce que je suggère par là, un peu ironiquement, c'est que quelle que soit la génération, il y a toujours le risque de devenir un vieux con.
Et de voir les autres comme des jeunes cons. Hein. On est tous passés par là. On a tous été vieillis et on sera tous vieillards. Ça, c'est une des grandes vérités sur lesquelles on peut se retrouver.
Mais peut-être aussi, faut-il assumer, sans peur et sans reproche, son identité de vieux con. Voilà. Ainsi se termine cette émission. Alors, Anne Toulouse, je rappelle votre livre, Wokisme, la France sera-t-elle contaminée? Il est publié aux éditions du Rocher. François Cusset, vous avez écrit French Theory, livre très intéressant et bien avant la vague que nous avons appelée à tort ou à raison woke. Et livre qui donne à penser précisément que la French Theory qui s'était exporté aux États-Unis revient aujourd'hui en France à travers cette critique radicale dont nous avons parlé. Et puis j'ai cité également votre roman qui est publié ces jours-ci aux éditions POL, Final Fantasy. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Le Monde de Proust. Mes deux invités seront Mathilde Brézet et Nathalie Mauriac. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Benjamin Perru, dans un instant concordance de temps avec Jean-Noël Jeannonet.